Chapitre 23, le miroir à deux faces. Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. Alfred de Musset. Jeudi 22 décembre, aéroport Nice-Côte d'Azur, 11h55. Un franc soleil d'hiver éclaboussait le tarmac. Jonathan avait quitté le matin même la grisaille anglaise pour la douceur méditerranéenne. À peine descendu de l'avion, il prit un taxi pour Antibes. La circulation étant fluide, le chauffeur délaissa l'autoroute au profit de la départementale qui longeait le bord de mer. Sur la promenade des Anglais, on se croyait au printemps ou en Californie. Les sportifs faisaient du jogging, les seniors promenaient leurs chiens et à l'heure du déjeuner, de nombreux employés prenaient leur casse-croûte en contemplant la baie des Anges assis sous des pergolas. En 20 minutes, la voiture fut à Antibes. Elle traversa le centre-ville et rejoignit le boulevard de la Garoupe. Plus Jonathan s'approchait du but, plus il sentait l'excitation le gagner. Qui habitait la maison d'Alice aujourd'hui? On était en période de vacances. Peut-être la jeune fille qu'il avait raccompagnée 2 ans plus tôt y passait-elle encore Noël avec ses parents. « Attendez-moi quelques minutes !» demanda-t-il au chauffeur en arrivant au bout de l'impasse du sans-souci. Cette fois, le portail était fermé. Il dut sonner plusieurs fois et montrer patte blanche devant la caméra de surveillance avant qu'on accepte de lui ouvrir le portillon. Il remonta à pied l'allée de gravier qui traversait la Pinède. Des odeurs de thym, de romarin et de lavande flottaient dans l'air. Sur le perron de la maison l'attendait une femme d'une 50aine d'années. Elle portait un foulard dans les cheveux, une palette dans la main et quelques traces de pigments colorés sur le visage. Il l'avait visiblement dérangée en pleine séance de peinture. « En quoi puis-je vous aider ?» lui demanda-t-elle avec un fort accent autrichien qui accentuait sa ressemblance avec Romy Schneider. Elle s'appelait Anna Askin et possédait la maison depuis le printemps 2001. Une propriété qu'elle louait une bonne partie de l'année, le plus souvent à la semaine, à une riche clientèle russe, anglaise et néerlandaise. Jonathan ne fut qu'à moitié surpris. Ainsi, Alice lui avait menti. Ses parents n'étaient pas propriétaires de la demeure. Sans doute l'avait-il simplement loué le temps de courtes vacances. « Excusez-moi de vous importuner, mais je cherche à retrouver une famille qui a loué cette maison il y a tout juste 2 ans. Monsieur et Madame Kowalski, ça vous dit quelque chose ?» Anna secoua la tête. Le plus souvent, elle ne rencontrait pas les locataires elle-même. Férue de domotique, son mari avait entièrement automatisé la maison. Tout fonctionnait par code et infrarouge, intégré dans un réseau piloté par un programme informatique. « Je ne sais plus, mais je peux vérifier. » Elle fit signe à Jonathan de la suivre sur la terrasse. Il l'accompagna jusqu'à un belvédère circulaire qui dominait la mer et les rochers. À côté d'un chevalet, posé sur une table en teck, un ordinateur portable, dernier cri, diffusait de la musique relaxante. L'Autrichienne ouvrit un tableau Excel qui récapitulait l'historique des locations. « Monsieur et Madame Kowalski, c'est exact. Un couple d'Américains. Ils ont loué la maison 15 jours entre le 21 décembre 2009 et le 4 janvier. C'est étrange parce qu'ils ont avancé leur départ. La maison était vide le premier au soir. » Ils sont partis quelques heures seulement après le retour d'Alice, pensa Jonathan. Vous avez leur adresse? Non. Ils ont tout réglé en liquide. $9,000 qu'ils ont fait parvenir plusieurs semaines à l'avance au bureau de mon mari à New York. Ce n'est pas courant, mais c'est déjà arrivé avec les Américains. Ils ont cette religion du cash, dit-elle d'un ton un peu dédaigneux. Et leur caution? Ils n'en ont jamais demandé le remboursement. Mais merde! Enfin, vous avez bien gardé quelque chose. Une simple adresse mail, c'est par ce moyen que nous communiquions. Sans trop d'espoir, Jonathan nota l'adresse du courrier électronique. Un compte Hotmail probablement créé à cet unique usage et qui se révélerait impossible à tracer. Il remercia néanmoins Anna Askin pour sa coopération et demanda au chauffeur de le reconduire à l'aéroport. Jonathan se dirigea vers la banque d'enregistrement Air France pour acheter un billet sur la navette de 15 heures pour Paris. Il passa la zone d'embarquement et patienta en grignotant un club sandwich dans l'un des restaurants panoramiques qui surplombaient les pistes. D'ordinaire, il se sentait mal dans les aéroports, Mais celui de Nice était différent. Privilégiant la transparence, le terminal avait la forme d'un immense cône de verre aux allures de soucoupe volante. La façade vitrée offrait une vue spectaculaire sur la Grande Bleue, la baie des Anges et les cimes enneigées de l'Estérel. Futuriste et apaisant, le lieu invitait au rêve. La lumière était partout, comme dans un loft aux dimensions infinies, flottant entre le ciel et la mer. Il tira l'élastique pour ouvrir le carnet en moleskine sur lequel il avait noté le compte-rendu de sa discussion avec Jim Flaherty. Il consigna ce qu'il venait d'apprendre de la bouche d'Anna Askin, tout en ayant conscience qu'il n'avait pas beaucoup avancé. À son tour, l'histoire d'Alice Dixon l'avait pris aux tripes. Mais il n'avait pas fait mieux que ceux qui s'étaient penchés sur l'affaire avant lui. Plus il enquêtait, plus le mystère s'épaississait, et les pistes se multipliaient, plus déroutantes les unes que les autres. Il prit encore quelques notes, essayant de relier entre eux certains éléments, couchant sur le papier toutes les hypothèses qui lui passaient par la tête. Plongé dans ses pensées, il attendit qu'on appelle son nom pour se lever et rejoindre le comptoir d'embarquement. Bien conscient que ses déductions se heurtaient à un mur, et qu'il ne trouverait pas tout seul la clé de l'énigme, une évidence s'imposa à lui. Il devait entrer en contact avec Madeleine Green. Aéroport de San Francisco, 8h45. Avec une fierté non dissimulée, le pilote d'Air China fit remarquer à ses passagers que l'appareil venait de s'immobiliser sur son parking avec 5 minutes d'avance sur l'horaire prévu. Son sac sur les épaules, Madeleine suivit le flot de voyageurs qui se présenta devant les files du bureau d'immigration. Complètement déphasée, elle mit un moment à réaliser qu'il n'était que 9h du matin. Lorsqu'on lui demanda son passeport, elle se rendit compte que, dans la précipitation de son départ, elle avait oublié de renseigner le formulaire en ligne ESTA qui autorisait son entrée aux États-Unis. « Vous étiez à New York il y a quelques jours. Le formulaire est valable 2 ans », la rassura l'officier. Elle poussa un grand ouf et essaya de se calmer. N'ayant pas de bagages, elle se rendit directement dans la zone des taxis et donna au chauffeur la seule adresse de Jonathan qu'elle possédait, celle de son restaurant. Il faisait chaud et ensoleillé. Difficile de croire que, quelques heures plus tôt, elle se trouvait dans la grisaille parisienne. Elle ouvrit même la vitre pour mieux se rendre compte de la douceur du climat. La Californie. Elle avait toujours rêvé de s'y rendre, mais elle avait imaginé que ce serait pour des vacances en compagnie d'un amoureux. Pas comme ça, à l'arrache, en ayant menti à l'homme qui venait de la demander en mariage. Putain, pourquoi je bousille tout ? Elle avait mis 2 ans pour se reconstruire une vie stable et sereine. Mais ce bel équilibre avait volé en éclats avec le retour sournois des fantômes du passé. En quelques jours, elle avait perdu tous ses repères. Elle se sentait égarée, au milieu d'un no man's land inquiétant, écartelée entre 2 vies dont aucune n'était plus la sienne. La voiture roula 20 minutes, traversant la ville depuis les quartiers sud jusqu'à North Beach. Il était 10 heures lorsque le taxi déposa Madeleine devant le restaurant de Jonathan. Pendant ce temps, à Paris. 18 heures. L'avion était parti de Nice avec du retard, une grève impromptue des contrôleurs aériens qui avaient immobilisé l'appareil au sol pendant près d'une heure. Puis, une fois à Orly, il avait fallu attendre une bonne 15 minutes l'installation de la passerelle. Il faisait nuit, il faisait froid, il tombait des cordes, le périph' était bloqué. Aimable comme une porte de prison, le chauffeur de taxi écoutait la radio à plein volume sans se soucier de son client. « Welcome to Paris !» Jonathan n'avait pas l'âme parisienne. À l'inverse de New York, de San Francisco ou des villes du Sud-Est, la capitale n'était pas sa ville. Il ne s'y sentait pas chez lui, il n'y avait pas de bons souvenirs, n'avait jamais voulu y élever son fils. Une fois la porte d'Orléans franchie, la circulation se fit un peu plus fluide. On approchait de Montparnasse. Il avait vérifié sur son téléphone les horaires d'ouverture de la boutique de Madeleine. La fleuriste ne fermait son magasin qu'à 20h. Dans quelques minutes, il allait donc la revoir, lui parler. Il ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Jamais il n'avait eu cette impression de connaître autant quelqu'un en l'ayant si peu fréquenté. Il avait suffi de cet échange de téléphone pour qu'il se sente lié à elle d'une façon très forte. Le taxi dépassa le Lion de Belfort de la place d'Enfer-Rochereau, continua le boulevard Raspail, puis tourna rue de l'Ambre. Voilà, plus que quelques mètres. Il apercevait déjà la devanture verramande du magasin qu'il avait vu en photo sur Internet. Planté devant un restaurant de sushi, un camion bloquait la rue. Pressé d'arriver, Jonathan régla sa course et parcourut à pied les quelques mètres qui le séparaient du magasin.